Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Et nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu pour la lecture des textes, pour la prédication. Il y aura quatre lectures. La première dans 1 Timothée 2, les versets 1 à 15. Et ça sera le texte de la prédication. Et ensuite, vous aurez trois autres textes où il y a quelques éléments d'écho dans Thessaloniciens, dans Actes et dans Pierre. On vous donnera les textes au moment où on les lira. Donc on va commencer dans 1 Timothée 2, les versets 1 à 15.
1 Timothée 2, versets 1 à 15. « J'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. De même aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Que la femme s'instruise en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification, avec modestie. Voilà pour ce passage. Et nous allons lire maintenant 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il est court celui-là. Priez sans cesse. Voilà. Ensuite, Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et pour finir, 1 Pierre 3, versets 1 à 5. 1 Pierre 3, versets 1 à 5. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse, par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Voilà pour les lectures.
Comme d'habitude, nous nous rappelons que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour saisir ce qui est dans cette parole. Et aujourd'hui, je vais prier. Éternel notre Dieu, seuls devant ce texte sont l'œuvre de l'Esprit, nous n'allons faire que des bêtises. Guide-nous, nous avons besoin de toi. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen. Donc nous avons commencé à chercher à nous imprégner de la première épître à Timothée, écrite par Paul, dont l'auteur est le Saint-Esprit. Dans le premier chapitre, Paul demande à Timothée de stopper des faux enseignants en lui donnant l'attitude à avoir, qui est résumée dans 1 Timothée 1.5, qu'on avait un petit peu vu plus ensemble la dernière fois. Peut-être que vous vous souvenez de ce texte. Je vous invite à toujours avoir vos bibles ouvertes, comme ça vous pouvez toujours regarder. Donc 1 Timothée 1.5, où on avait vu que le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. On avait aussi vu que la loi n'est pas là pour donner la vie ou pour nous mettre un fardeau, mais pour éclairer. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est là pour nettoyer et transformer. Okay. Et nous avions vu un passage phare de ce premier chapitre que j'aime beaucoup, que je trouve fabuleux. C'est « Cette parole est certaine ». Vous vous rappelez la suite là ?« Cette parole est certaine et digne d'être entièrement reçue. » Que Jésus-Christ est venu pour, enfin venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. Alors je ne sais pas si vous avez réfléchi à ce que nous avons vu la dernière fois, et est-ce que vous pouvez dire avec sincérité et respect de tout cœur, Jésus est venu dans ce monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Parce que comprendre et accepter notre état de pécheur est le premier pas vers le salut. Comprendre et accepter notre état de pécheur est le premier pas vers le salut, vers une vie de sainteté appuyée sur l'œuvre du seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Aujourd'hui, Paul, guidé par le Saint-Esprit, nous donne quelques indications sur la place de l'homme et de la femme dans l'Église. Aujourd'hui, on aura 2 points. Bon, vous aimez quand il y en a 3, alors rassurez-vous, il y aura 3 sous-points pour chaque point. Pour le programme des points, les voici. Le premier point est intitulé « La première chose à faire ». Ça sera les versets 1 à 7. Et puis ensuite, le deuxième point, les versets 8 à 15, ça sera « La prière des hommes et des femmes dans l'Église ». Donc, premièrement, la première chose à faire. Alors, on va relire les versets qui concernent cette partie, les versets 1 à 7. Donc, 1 Timothée 2, 1 à 7. J'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'étais moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Docteur des païens, dans la foi et la vérité. Paul commence par dire ce qu'il faut faire en premier. Vous voyez, dans le verset 1, il est écrit là, « En tout premier lieu ». Bon, il a déjà écrit tout un chapitre. Tout un chapitre, et il dit maintenant ce qu'il faut faire en premier. En fait, il a désherbé en écartant les fausses doctrines et en indiquant le chemin de l'Évangile. Et dans le verset 1, Paul nous indique 4 mots pour la prière qui sont plus ou moins des synonymes et qui en même temps soulignent des aspects différents. Des requêtes, des prières, des intercessions et des actions de grâce. Et j'y vois en fait les 3 dimensions plus une 4e. Les 3 dimensions, je vais en parler plusieurs fois aujourd'hui, quand je dis 3 dimensions, il faut avoir en tête Dieu, dehors, dedans. C'est les 3D, les trois dimensions. La dimension avec Dieu, la dimension avec les autres, dehors, et la dimension en moi-même, dedans. OK ? Donc la requête, ce que l'on fait le plus facilement, ce sont des demandes pour soi-même. On pourrait dire que c'est la dimension du dedans. On exprime à Dieu ce qu'on aimerait, les requêtes. Ensuite, il y a les prières, l'adoration. Ici, le terme va dans cette notion d'adoration, qui sont des révérences envers Dieu. C'est la dimension envers Dieu. Et l'intercession nous indique la prière pour les autres. C'est la dimension dehors. Voilà donc ce que Paul indique de faire en premier, que les hommes et les femmes prient en 3D. C'est-à-dire en lien avec Dieu, en lien avec les autres et en lien avec ce qui est dans notre cœur. Et il ajoute même une quatrième dimension que nous retrouvons aussi, par exemple, dans le passage de Philippiens 4, 6 et 7, que beaucoup connaissent et aiment, où il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, et là, il y a l'élément, la quatrième dimension, avec des actions de grâce, c'est-à-dire avec reconnaissance, hein, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » La reconnaissance, c'est la quatrième dimension. Donc cherchons donc, dans nos prières, à avoir ces quatre dimensions. Nous nous adressons à Dieu, nous intercédons pour les autres dehors, nous faisons part de nos demandes dedans, et tout cela baigné dans la quatrième dimension de la reconnaissance. La prière est le lien avec Dieu, et nous avons besoin dans nos vies personnelles, d'avoir ce lien avec Dieu. Et nous avons besoin aussi, dans notre vie d'église, d'avoir ce lien avec Dieu. D'ailleurs, un des versets les plus courts de la Bible qu'on a entendu tout à l'heure nous le dit bien. Maintenant, si je vous dis 1 Thessaloniciens 5, 17, c'est trois mots. Hein? Priez sans cesse. Peut-être que vous pourriez mettre le sans cesse toujours, ça ferait deux mots, priez toujours. Priez sans cesse. L'apôtre, poussé par l'Esprit, nous indique ensuite, dans le texte de Timothée, pour qui prier. Ici, on a vu la prière 3D avec la quatrième dimension, hein, donc Dieu, les autres, soi-même, avec reconnaissance. Et maintenant, l'apôtre Paul nous dit pour qui il faut prier. Et si vous regardez le texte, c'est très intéressant, il est dit « pour tous les hommes ». Voilà, on peut déjà s'arrêter là. Pour tous les hommes. Et là, le terme « homme » qui est utilisé ici, c'est le terme « être humain » ou « anthropos », c'est général. Ça signifie que la parole de Dieu indique de prier pour tous, hommes et femmes, pour les grands, pour les petits, pour ceux qui habitent proche de chez nous, ceux qui habitent loin de chez nous, pour ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, en fait, pour absolument tous les êtres humains. Il n'y a pas une exception. Les hommes et les femmes sont appelés à prier pour tous les êtres humains. Les hommes et les femmes sont appelés à prier pour tous les êtres humains. Et au verset 3 et 4, la raison principale en est donnée. C'est que c'est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà la raison. Donc les hommes et les femmes sont appelés à prier pour tous les êtres humains. Et le verset 3 et 4, la raison principale en est donnée. C'est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Cela signifie qu'il n'y a pas une seule personne où vous pouvez vous dire « Non, ça ne vaut pas la peine de prier pour elle. » Ça contredirait ce texte. Priez pour tous les hommes. Il est vrai que vous ne savez pas si elle sera sauvée. Mais vous savez que Dieu n'a aucun désir que qui que ce soit ne soit perdu. Ça, c'est son cœur. On est en train de voir le cœur de Dieu ici. Il n'a pas de désir que qui que ce soit soit perdu. Mais ce n'est pas sa volonté décrétive ici. Et pour vous dire que c'est son cœur, on voit dans Ézéchiel 18, 32, par exemple, ce texte qui dit « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. » C'est l'Éternel qui parle. « Convertissez-vous donc et vivez. » N'hésitons donc jamais à prier pour quelqu'un. Jésus a clairement dit en Matthieu 28, 19, « allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas d'exception. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a aucune discrimination. Le salut n'est pas que pour les Juifs, comme ceux qui se prenaient pour des docteurs de la loi, qu'on a vu dans le premier chapitre à Éphèse, hein, qui pouvaient quelque part dire « Ah non, non, c'est qu'une partie. » Non, c'est tous les hommes pour lesquels on va prier. C'est à tous les hommes qu'on va annoncer l'Évangile. C'est pour tous les hommes qu'on désire qu'ils soient sauvés. Et Timothée devait justement dénoncer ces personnes qui pouvaient enseigner « Non, non, c'est que ceux qui sont ceci ou cela. » Non, tous les hommes. Et après le « pour tous les hommes », il ajoute « pour les rois et tous ceux qui occupent une position supérieure, spécialement pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une influence directe sur la manière de vivre dans un pays. » Le gouvernement a une influence directe. Il n'y a pas de distinction de parti pour qui on prie, ou même de pays. Nous sommes appelés à prier pour le palais fédéral à Berne, pour la Maison Blanche, pour Westminster, enfin pour tous les types d'autorités dans le monde, ainsi que même des autorités autour de nous, comme notre patron, nos profs, la direction d'école, etc. Les hommes et les femmes sont appelés à prier pour tous les êtres humains, et particulièrement pour ceux qui ont une autorité, car ce sont eux qui nous assurent le contexte de vie dans lequel nous vivons. Et là, nous avons un élément très important qui d'ailleurs façonnera toute la suite du passage qu'on va étudier ici, ce matin, et qui parlera de ce que vivent les hommes et les femmes dans l'Église. C'est la raison de prier pour les gouvernements. Quelle est la raison de prier pour les gouvernements ? Hein, regardez un petit peu dans votre Bible. La raison de vivre pour le gouvernement, c'est pour vivre une vie, écoutez bien, paisible, tranquille, en toute piété et dignité. Voilà. Il n'est pas dit seulement paisible et tranquille, comme souvent nous le retenons. Si la suite ne fait pas partie de nos pensées et que nos désirs, c'est simplement de prier pour les autorités pour qu'on vive tranquille, nous n'avons pas compris ce pourquoi nous devons prier. Être paisible et tranquille, c'est pour vivre en toute piété et dignité. C'est-à-dire vivre proche de Dieu, vivre l'Église en y participant. C'est ce que signifie la piété en vivant dans la pureté, en honorant Dieu. C'est ce que signifie la dignité. Vous savez, si on était dans un pays où les chrétiens sont persécutés, où nous ne sommes pas paisibles et tranquilles, c'est plus difficile de vivre la piété et la dignité. Donc de chercher la proximité de Dieu, de ceux qui lui appartiennent. Par contre, dans un pays paisible et tranquille, c'est là que nous devrions avoir le plus de piété et de dignité. Dans un pays libre, les croyants qui n'en sont justement pas empêchés devraient avoir de la joie à se retrouver, à s'encourager, se stimuler à vivre la foi de manière continuelle et en même temps partager à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ l'Évangile. Car comme Paul le dit dans le verset 5 et 6, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Ce n'est pas toutes les religions qui amènent au ciel, non. Il y a un seul médiateur. Il n'y a même pas de co-médiateur. Un seul médiateur. Et c'est un développement de ce que Paul a dit dans le premier chapitre. Là, on avait déjà vu le verset ce matin. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est lui qui est venu pour sauver. Il n'y a personne et rien d'autre. Les pécheurs dont moi je suis le premier. Les expressions « tous les hommes sont sauvés » et « en rançon pour tous » sont en lien avec cette merveilleuse parole de Jésus dans Jean 6, 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Personne ne pourra dire un jour qu'il a voulu se repentir, qu'il a cru en Jésus et qu'il n'a pas été accepté par Jésus. Ça n'existe pas. Donc n'ayons pas peur d'annoncer l'évangile à tous. C'est ce que Jésus nous enseigne tout en priant pour que le don de la repentance et de la foi soit accordé par Dieu et il le fera pour tous ses élus. Il y en aura de toute nation, de toute situation, même des autorités, des personnes dont on ne s'attendrait pas d'ailleurs. Une grande foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue que nul ne peut compter. C'est pas moi qui le dis, hein. Ça c'est Apocalypse 7-9. Est-ce que vous vous souvenez, j'ai dit 2-3 phrases, donc est-ce que vous vous souvenez de la raison de prier pour le gouvernement ? C'est pour vivre une vie paisible et tranquille. Ne vous arrêtez pas là. Parce que si vous arrêtez là, vous n'allez pas comprendre toute la suite du texte. Hein. Paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Je vais juste vous donner d'autres traductions, comme ça, ça vous donne un petit peu la compréhension. La Bible du Semeur dit ceci, « À l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. » Ou bien dans la Nouvelle Français Courant, tranquille et paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Ou je vous donne encore une transcription. Donc une transcription, c'est quand on prend plusieurs traductions puis qu'on essaie de prendre tous les éléments et on les met ensemble. Alors ça fait des phrases plus longues. Alors voilà la transcription ici de cette partie-là. À l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime notre foi en Dieu, étant libre de le servir conformément à sa volonté, en toute dignité et honorabilité. En fait, tout ce que je viens de dire, ça veut dire paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Paul va maintenant l'appliquer à l'homme et à la femme. Il va indiquer que vivre paisible et tranquille n'est pas seulement dépendant du gouvernement, il est aussi dépendant de notre manière de vivre, de notre soumission à sa volonté. Cette tranquillité et cette paix dans nos cœurs et dans l'Église sera aussi le terrain pour vivre la piété et la dignité. Passons donc au deuxième point, la prière des hommes et des femmes dans l'Église. C'est les versets 8 à 15. Nous allons donc simplement suivre le texte biblique pour les différents aspects de ce que vivent les hommes et les femmes. Et rappelons-nous que nous sommes face à la parole de Dieu et que c'est elle qui doit nous conduire et pas nous qui devons conduire la parole de Dieu. Donc, premier sous-point, l'attitude de prière des hommes. Ça, c'est le verset 8. Je veux donc que les hommes, et là, ce n'est pas écrit anthropos, donc là, c'est spécifiquement les êtres masculins. Les hommes. Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Donc là, les hommes, il faut écouter. Et puis les femmes, ben, vous allez encourager, évidemment. Mais là, il faut bien écouter. J'y vois de nouveau les 3D, les trois dimensions. Les hommes sont appelés à prier avec une attitude intérieure adéquate. Hein, c'est le dedans. Cette attitude, c'est la pureté. Les hommes sont appelés à élever les mains, c'est-à-dire à prier en étant purs en dedans. Premier élément. Deuxièmement, les hommes sont appelés à prier sans colère. C'est le lien avec Dieu. Parce qu'en fait, la colère pécheresse dont il est question ici est toujours un acte contre Dieu. Quand on est en colère, on prend la place de Dieu. En fait, les hommes sont appelés à prier sans colère, sans vouloir maîtriser Dieu. Et troisième dimension, les hommes sont enfin appelés à prier sans contestation ou esprit de dispute ou encore de querelle, c'est le dehors, le lien avec les autres hommes. Les hommes sont appelés à prier sans avoir de conflit avec d'autres personnes. Donc ça va les gars ? La prière 3D là ? Donc la prière 3D pour les hommes, dedans pur, face à Dieu sans colère, dehors sans contestation. Si jamais vous revenez au verset 8. Cela nous fait penser un petit peu au psaume 24, versets 3 et 4, et qui nous dit « Qui montera à la montagne de l'Éternel ? Qui ira adorer l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu ? Qui ?» Et là, il le dit « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Voilà, la prière 3D pour les hommes. On verra si on s'en souvient, j'en fais partie, donc évidemment. Et j'aimerais encore attirer l'attention sur le fait que le texte dit clairement, vous pouvez regarder dans vos Bibles, hein, « Je veux donc que les hommes prient. » Je veux donc que les hommes prient. Ce n'est donc pas une option. Les hommes qui ne prient pas doivent se repentir de ne pas le faire. C'est biblique. C'est l'attention ici, il est dit « Je veux que les hommes prient ». Ce n'est donc pas une option et les hommes qui ne prient pas doivent se repentir de ne pas le faire. Les hommes, en fait, doivent être les leaders dans la prière. Alors, vous savez, moi, j'ai vraiment rien contre qu'une sœur commence la prière quand on a des temps de prière. J'ai vraiment rien contre ça. Mais je me pose quand même la question du pourquoi il y a si peu d'hommes qui lident la prière, qui commencent, qui lancent. Où sont les hommes? Parce que c'est cela être... Parce que peut-être que vous le vivez chez vous. C'est bien. Mais il est écrit dans ce texte « en tout lieu ». En tout lieu. Bon, continuons le texte et tournons-nous maintenant vers les femmes, puisque le Saint-Esprit, par Paul, fait cette distinction. Il a parlé des hommes, et maintenant ici, il arrive vers les femmes avec les versets 9 et 10. L'attitude de prière des femmes. Donc on va relire ces deux versets. « De même aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui font profession de piété. » L'expression « de même », ici, indique que les femmes sont invitées à prier. On a parlé de prière. Donc il est dit ici, l'expression « de même » indique que les femmes sont appelées à prier, ce qui tord déjà le cou à tous ceux qui veulent utiliser le terme souvent traduit par « silence » dans les versets 11 et 12 pour dire que les femmes ne peuvent pas parler. Ça doit déjà être clair. Le « de même » du verset 9 indique que les femmes sont invitées à prier, ce qui tord le cou à ceux... Enfin, tord le cou, vous comprenez l'expression, hein, qui veulent utiliser le terme souvent traduit par « silence » dans les versets 11 et 12 pour dire que les femmes ne peuvent pas parler en assemblée. Non, il est dit ici « de même aussi les femmes ». Ok ? Donc les femmes sont invitées à prier, faites-le avec joie. Par contre, un autre aspect est soulevé ici, en lien avec la féminité, qui peut avoir une tendance plus grande que les hommes à vouloir attirer l'attention par des artifices extérieurs qui se manifestent par l'habillement et la manière de se mettre en valeur par des coiffures, des bijoux et autres. Et là, j'ai de nouveau une base 3D. Parce que les hommes avaient une 3D, ben les femmes aussi auront un 3D, hein, le dieu dehors-dedans, qui sera bien utile. La femme est appelée à se vêtir de manière décente face à Dieu. Elle est appelée à se vêtir de manière décente face à Dieu. Le terme utilisé ici pour « décente » signifie « digne, approprié ». Une femme qui se présente devant Dieu de manière négligée a autant à réfléchir qu'une femme qui se présente de façon immodeste et inappropriée ou de façon indécente. Donc la première question pour l'habillement d'une femme est sa décence face à Dieu. Okay ? Ensuite, nous avons la pudeur qui est directement liée à ceux qui sont autour d'elle, la dimension du dehors. Quand elle va prier en communauté, il y a d'autres personnes pour qui elle a des égards. Les tresses ici, qui signifient des coiffures sophistiquées, pas juste une belle coiffure, hein, mais ce qui attire le regard, l'admiration ou même l'envie, comme l'or, les perles et les toilettes somptueuses. Rappelons-nous une chose. Pourquoi Dieu a-t-il donné des habits ? Pour s'habiller, ça c'est assez clair. Mais la raison, c'est pour couvrir la nudité. C'est ça la raison. C'est pour couvrir la nudité. Et pas pour mettre le corps en valeur. Ça, c'est la société qui dit ça. C'est faux. C'est pas biblique. C'est pour couvrir la nudité et qui n'est pas pour mettre le corps en valeur, ce qui n'empêche pas d'avoir de beaux habits agréables à porter, évidemment. Et la troisième dimension, qui est une clé pour la femme lorsqu'elle choisit ses habits, est la dimension intérieure, le « dedans ». Dans les textes, il est parlé ici de modestie, une modestie consciente qui a une attitude de respect pour elle-même et pour les autres. Avec le développement que Paul fait dans le texte, nous pouvons voir l'attitude du cœur. Est-ce que la femme, puis là on voit, hein, si on fait un petit peu la comparaison avec ce qu'il dit qu'il faut vivre et puis ce qu'il ne faut pas vivre, est-ce que la femme veut attirer l'attention par des marques extérieures attirantes qui peut manifester une supériorité face aux autres femmes, ou veut-elle attirer l'attention par des œuvres bonnes? Ça, c'est une question. Deuxième question, est-ce que le désir de son cœur est de plaire à elle-même et recevoir l'admiration, ou plaire à Dieu et donner en pratiquant des œuvres bonnes? Est-ce qu'on est là pour recevoir ou pour donner? Alors, mes chères sœurs, je suis conscient que de notre monde qui choisit toujours la première partie des deux questions que je viens de poser, il est parfois difficile de trouver des habits adéquats. Mais je suis certain que si vous avez une réflexion 3D, telle qu'on l'a vue ici, Dieu vous guidera et ne vous laissera pas vous vêtir de manière à le déshonorer, puisque le plus grand désir de tout croyant, c'est d'honorer Dieu en toutes circonstances. Alors, je vais un petit peu résumer, qu'on puisse prendre ceci avec nous. Donc, face à Dieu, s'habiller de manière décente et appropriée, Dieu pourrait se manifester en se présentant à vous de manière physique. Est-ce que vous seriez gêné d'être dans les habits dans lesquels vous êtes? Face aux autres, dehors, s'habiller avec pudeur, aucune gêne, pas besoin de remonter régulièrement un tissu de peur d'être scanné à cause d'une manière subjective de s'habiller. La nudité est clairement respectée pour le couple marié. Et face à soi, s'habiller avec un cœur qui cherche la modestie. Et la modestie ne signifie pas de prendre des choses vilaines et fades, non. Mais de belles choses, mais sans l'idée de rechercher l'attention que l'on veut entièrement tourner vers Dieu. Donc l'habillement des femmes 3D, si je le fais très court, face à Dieu de manière décente, dehors avec pudeur, dedans avec modestie. Et là, dans son développement, Paul, qui a parlé au premier chapitre des enseignants qu'il fallait stopper, il vient de parler de l'habillement des femmes pour la prière, après avoir parlé de l'attitude des hommes pour la prière, va faire un lien avec le rôle de l'homme et de la femme dans l'enseignement et dans l'autorité. C'est le troisième sous-point ici, les versets 11 à 15, que je vais relire avec vous. Versets 11 à 15. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification, avec modestie. Alors je comprends qu'on l'on pourrait traduire ici par « silence » le terme utilisé dans les versets 11 et 12, mais je pense que malheureusement, il peut aussi prêter à confusion. Et c'est ce que ça fait généralement. C'est pour ça que si vous aviez eu des tomates, peut-être qu'elles seraient déjà arrivées jusqu'à moi. Mais ce n'est pas grave. Le terme utilisé ici dans l'original indique en fait une attitude tranquille, une attitude paisible. Et je crois que cela fait vraiment référence au verset 2. Je vous ai dit, le verset 2, il est important. Pourquoi est-ce qu'on prie? C'est pour vivre une vie donc paisible et tranquille. Ici, on retrouve ces notions. Paisible et tranquille. Nous avons vu que le verset 9 indique que les femmes sont appelées à prier, ce qui signifie que le silence ici n'indique pas l'interdiction de prendre la parole. Ça doit être clair aussi déjà. J'ai été tenté de faire tout un développement avec plein de textes bibliques. Je ne le ferai pas maintenant. Je vous donne juste la conclusion, c'est celle-là. Donc là, l'interdiction se situe au niveau de l'enseignement et de la prise d'autorité sur l'homme, pas du fait de parler ou de ne pas parler en Église. L'homme doit prendre ses responsabilités créationnelles. C'est dans le texte. Il a été créé, il a été formé le premier et Ève a été créée ensuite pour être une aide qui va être son vis-à-vis. Ça, c'est dans Genèse 2,18. Vous pouvez aller le relire. Et le terme « vis-à-vis » dans Genèse 2,18 indique une égalité de niveau. La femme n'a pas à se placer sur un niveau supérieur. Et l'homme non plus, d'ailleurs. OK ? Ça, c'est Genèse 2,18. Pour l'homme, alors là, c'est une longue phrase, mais elle a plein de choses dedans. Donc là, je vais la dire deux fois, il y a des choses aussi à écrire, hein, mais essayez de la saisir. Puis surtout, mes chers frères, on veut essayer de saisir ça très très fort. Pour l'homme, il ne s'agit pas de prendre une attitude supérieure, mais de prendre ses responsabilités de protecteur. Il ne s'agit pas de prendre une attitude supérieure, mais de prendre ses responsabilités de protecteur, de celui qui encourage et cherche l'épanouissement de l'autre qui a été placé en vis-à-vis par le Créateur en donnant une direction dans la soumission à Dieu. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de choses. Je vais la reprendre. Mais il me semble que c'est quelque chose, si on arrive à saisir les éléments qu'il y a derrière, on va faire un grand pas en avant. Donc pour l'homme, il ne s'agit pas de prendre une attitude supérieure, mais de prendre ses responsabilités de protecteur, de celui qui encourage et qui cherche l'épanouissement de l'autre qui a été placé vis-à-vis par le Créateur en donnant une direction dans la soumission à Dieu. Ce rôle de direction a été donné à l'homme durant toute l'histoire de la rédemption. Vous ne trouverez que des rois approuvés par Dieu, hommes dans la Bible, aucune femme. Vous ne trouverez que des sacrificateurs hommes dans la Bible, aucune femme. Vous ne trouverez que des prophètes de ministère appelés par Dieu, hommes, même si parfois il y a des porte-paroles comme Myriam, Déborah, Hulda, Anne et les quatre filles de Philippe, pour toutes vous les donner. Mais il n'y a pas un ministère appelé par Dieu prophétique autre que homme. D'ailleurs, ces trois offices, roi, sacrificateur et prophète, sont maintenant réservés à une seule personne, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi un homme. OK ? Vous ne trouverez d'ailleurs aucun livre biblique écrit par une femme. Vous ne trouverez aucun apôtre ou même pasteur dans la Bible qui n'est pas un homme. Ce n'est pas culturel, puisque cela a traversé de nombreuses époques et que Dieu n'est pas lié à la culture. Si Dieu voulait que nous comprenions que la femme prenne autorité sur l'homme, il aurait eu beaucoup d'occasions pour démontrer très clairement cela, mais il ne l'a pas fait parce qu'il ne se contredit pas. La femme doit donc être soumise à la direction de l'homme qui doit être soumis à la direction de Dieu. J'aimerais prendre encore quelques instants pour les versets 13 à 15, puisqu'ils font partie du texte de ce jour et qu'il y a quand même pas mal d'incompréhension à leur sujet. L'Esprit de Jésus, qui a inspiré Paul à écrire ces versets, nous les donne comme argument pour appuyer que les femmes ne doivent pas enseigner et prendre autorité sur l'homme. Nous avons compris que ça ne signifie pas ne pas s'exprimer, hein, mais ça signifie ne pas prendre autorité. Donc je prendrai les sujets l'un après l'autre courtement. Le premier, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Cet argument, nous l'avons déjà vu tout à l'heure, je ne vais pas y revenir maintenant. Deuxièmement, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, a été coupable de transgression. Alors là, il est intéressant de se remettre un petit peu dans la situation de Genèse 3. Nous sommes dans le jardin d'Éden. C'est là, vous êtes avec moi dans le jardin d'Éden, dans nos pensées évidemment. Adam et Ève sont ensemble et le serpent parle à Ève. C'est bon ? On est au même endroit ? Au lieu de laisser son mari répondre, bon, peut-être qu'il était lent, qu'il n'était pas très motivé à le faire, mais c'est un fait. Ève parle. Et elle ne reste pas tranquillement confiante que son mari va prendre sa défense. la protéger, chercher son bien. Non, elle ne reste pas silencieuse, ce qui aurait été vraiment mieux dans ce cas. Ce qu'elle a dit n'était pas faux. Et cela montrait que Adam lui avait transmis l'ordre de Dieu. Mais en fait, en prenant la parole, c'est elle qui se mettait face à l'ennemi et qui devait y faire face. Et l'ennemi savait qu'elle serait plus facilement touchée dans ses sens que l'homme qui est différent dans sa masculinité, selon la parole. Nous comprenons donc que la prise de parole dans certaines circonstances va automatiquement mettre une personne dans une position d'autorité ou de direction. C'était le cas dans ce qui s'est passé avec Ève. Ève l'a fait alors que ce n'était pas son rôle et cela a viré à la catastrophe que nous vivons encore aujourd'hui. Bien entendu, Adam est responsable. Il aurait dû parler. D'ailleurs, Dieu ne va pas vers Ève en premier lorsqu'il juge cette situation. Il va d'abord vers l'homme qui nous permet de bien saisir qu'il a donné la responsabilité de direction et d'autorité à l'homme dès le départ. Vous avez saisi un petit peu ? Comprenez maintenant pourquoi Paul l'utilise ici dans Timothée. Et à ce moment de ce développement, disons que c'est la femme qui s'est rendue coupable de transgression, Paul amène le verset 15 pour rassurer les femmes qui pourraient se dire qu'elles sont sous une malédiction qui les éloigne du salut. Le problème, c'est que ce texte, ça n'a pas rassuré certaines femmes, ou certains hommes aussi, parce qu'il est mal compris. Là, je prends juste un élément, mais qui me semble pourra vraiment être utile pour comprendre, pour ne pas vous faire tout un développement ici. Juste un élément grammatical qui n'est rendu en français que dans la traduction d'Arby me semble utile ici. La partie, regardez le verset 15, hein, la partie « elle sera néanmoins sauvée en devenant mère » est au singulier. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, est au singulier. Et la partie, si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie, est au pluriel. Cela signifie qu'en devenant mère, qui plutôt est en enfantant, concerne Ève, qui a la promesse de Genèse 3,15, à qui la promesse a été faite, où il est dit que sa descendance écrasera la tête du serpent. Et ensuite, si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie au pluriel, concerne toutes les femmes. Et en fait, ce qu'il est dit ici, la persévérance dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie, c'est en fait la marque de chrétien authentique. Il n'est donc pas question que toutes les femmes doivent enfanter pour être sauvées. C'est ce que certains ont voulu comprendre ici. Mais ça contredirait beaucoup de passages bibliques. On a lu Actes 4, 4, 12 avant tout à l'heure, par exemple. Dont un verset même dans le même texte juste avant qui dit que Jésus est le seul médiateur. Ou au verset 6, qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pas besoin d'ajouter l'enfantement dans cette rançon. Vous comprenez maintenant ? J'espère que vous comprenez. Et qu'en fait, le verset 15 devient un encouragement, clairement. Nous arrivons à la conclusion. Ce fabuleux texte de la parole de Dieu qui fait autorité pour nous, nous parle premièrement de la prière. C'est ce qu'on a vu. Retenons la prière 3D, ou même à quatre dimensions. Hein, où en fait, on prie vis-à-vis de Dieu, on prie pour les autres, et on prie en lien avec nos besoins. Et on le fait avec reconnaissance. Pour qui le faisons-nous ? Pour tous les hommes, et particulièrement aussi pour les autorités. Vous vous souvenez pourquoi on prie pour les autorités dans l'exercice de leurs fonctions ? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cet esprit paisible et tranquille, avec piété et dignité, les hommes sont appelés à vivre dans la prière évitant les travers dans lesquels les hommes tombent facilement, qui sont l'impureté, la colère et la contestation. Donc rappelons-nous, chers frères, que nous voulons vivre la prière 3D des hommes. Pur, sans colère, sans contestation. Et rappelons-nous aussi, chers frères, que nous sommes des leaders dans la prière. Cet esprit paisible et tranquille que nous demandons par rapport au gouvernement, avec piété et dignité, les femmes sont aussi appelées à le vivre dans la prière en évitant les travers dans lesquels elles tombent facilement, comme l'apparence au lieu du service modeste et la prise de pouvoir au lieu de l'aide en vis-à-vis. Rappelez-vous, mes chères sœurs, que vous êtes précieuses dans votre piété et dans l'exercice des bonnes œuvres. Tout cela, nous le voulons et nous pouvons le vivre parce que Jésus-Christ est notre médiateur. Il s'est donné lui-même en rançon pour nous, donc n'hésitons pas à nous approcher de Dieu, il est le médiateur, on peut s'approcher de lui, et n'hésitons pas à vivre une vie totalement consacrée pour lui. Il a payé la rançon. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est claire, ta parole qui nous guide. Et j'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à saisir la joie de pouvoir être libre en Christ. Tellement libre en Christ qu'on aime faire ce que tu aimes, qu'on aime se soumettre à toi, que l'on aime se soumettre les uns aux autres, que l'on aime vivre les responsabilités et les rôles que tu as définis dans ta parole depuis le début, depuis la création. Et Seigneur, j'aimerais te dire merci parce que lorsque je vois que ces choses sont vécues, souvent nous voyons des familles, des églises, des groupements qui sont sains, qui sont stables, qui sont accueillants, qui te mettent au centre. Parce que l'objectif principal pour les femmes, ce n'est pas de se soumettre aux hommes, c'est se soumettre à toi. Et l'objectif principal pour les hommes, ce n'est pas d'avoir l'autorité, c'est de se soumettre à toi. Seigneur, nous te prions de nous donner une attitude modeste à tous, une attitude humble, une attitude qui cherche le bien les uns des autres, une attitude qui pousse aussi à prendre nos responsabilités afin de les vivre pleinement. Et lorsque nous ne les vivons pas, à reconnaître nos torts, à nous en repentir, à vivre le pardon et à progresser dans ta grâce. Ô Seigneur, je te prie pour chacun ici présent. Tu vois qu'on a tous nos luttes. Il y a des luttes parfois très fortes en lien avec ces sujets qu'on a abordés ce matin. J'aimerais, Seigneur, te prier que ce ne soit pas des luttes avec toi, des luttes contre toi, mais que ce soit des luttes contre le péché. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.